Carnet de route, une émission proposée par l'ASBL Samarcande. Le carnet de route, une heure d'antenne pour les ados. Bonjour à tous, et nous revoilà pour une émission Carnet de route, aujourd'hui en compagnie de Bijo. Et je vous rappelle que le Carnet de route, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté pendant une heure. Et pour cela, on se voit une première fois pour une préparation. Et aujourd'hui, on se retrouve de nouveau dans le petit mobile de Samarcande pour un enregistrement. Et je dis bonjour à Bijo.
Bonjour.
Bijo, comme je viens de le dire dans la présentation, on s'est vu la semaine passée pour une préparation. Et est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste, la préparation? Qu'est-ce qu'on a fait ce jour-là?
On a parlé de ce qu'on allait faire, du texte que j'allais dire. On a préparé des petites phrases à dire. Et j'ai choisi des chansons pour les 1 heure.
Et est-ce que ça te fait plaisir de faire le projet?
Oui, ça me fait très plaisir. Ça me permet de m'exprimer, de dire ce que je ressens.
Et en général, tu le fais. Est-ce que tu arrives à t'exprimer?
Avant de venir ici, dans le centre, j'arrivais pas. Et ici, je suis venu et j'ai vu que les éducateurs étaient là pour m'aider, donc j'ai réussi. J'arrive à mieux parler, à m'exprimer.
Et tu es là pour combien de temps à peu près hein?
Je ne sais pas, on prolonge de 3 mois, puis d'1 mois. Si tout se passe bien, ça se pourrait que je sois libéré au mois d'avril. Ça dépend que de moi.
Et je voulais te poser une question, ce n'est pas encore dans ta préparation, mais est-ce que tu te sens mieux depuis que tu es là?
Depuis que je suis ici? Oui, je me sens très bien. Je me sens, on va dire, libre, j'arrive à relever. Pendant mes 15 ans, j'ai gardé tout en moi, j'ai jamais rien dit. Et ici, ça me fait très plaisir d'exprimer tout ce que j'ai vécu.
Pour revenir à ta préparation, dans tes sujets, les sujets que tu avais choisis, il y avait ta copine, il y avait l'amour, il y avait la famille, il y avait le travail et les amis, en gros. Mais tu verras, il y a d'autres choses aussi qui reviendront. Et moi, je t'avais proposé, c'était un récit de vie, je ne sais pas si tu te souviens.
Oui.
Le récit de vie, c'était d'aller au plus loin possible dans tes souvenirs, de trouver une date et puis d'en trouver d'autres jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si tu te souviens.
Oh, je me souviens.
Et la date la plus importante, ça a commencé à ta naissance.
Ouais.
Tu es né en
1995.
Et donc, ce que tu avais fait, c'est que tu avais choisi des moments qui t'avaient, des moments que tu avais choisis et qui t'avaient marqué. Et le premier, c'était à 9 ans, à peu près. Ouais. Et c'était la séparation de tes parents, je pense.
Ouais.
Comment est-ce que tu vis ça,
Vidéo? Quand mon père était là, ça se passe encore bien. Et quand il est parti, ma mère m'a placé. Et donc, je sais bien que si mon père aurait toujours été là, à la maison, j'aurais pas été placé. Parce qu'il aurait jamais voulu ça.
Que tu sois placé?
Oui.
Il aurait préféré que tu restes vivre avec lui?
Oui. C'est ce qu'il veut encore. Après, ici, il veut pas que ma mère me mette dans un home ou quoi. Il veut que j'aille chez lui. Enfin, il veut que j'aille où ce que je sois bien.
Il voudrait que tu ailles où toi tu te sentes bien.
Oui. Pas que j'aille spécialement chez lui, mais parce que je me sens bien et moi c'est chez lui.
Tu lui as déjà dit ça?
Oui, oui.
Et lui, il en pense quoi? De t'accueillir et de s'occuper de toi?
Il pense que c'est un bon projet. Et moi, je suis très content de lui et je le félicite parce que après la connerie que j'ai fait, il m'accepte encore, donc...
Et pourquoi tu aurais peur que des gens ne t'acceptent plus, surtout des gens de ta famille, Bijo?
Enfin, je veux dire, pour ce que j'ai fait, c'est un peu dur à supporter. Il y a beaucoup de gars qui veulent me frapper ou quoi. Et je veux dire, il y en a qui... Enfin, mon père ne croyait pas déjà que c'était moi qui avais fait ça. Et ça lui fait très mal de ce que j'ai fait. Donc, moi, je trouve que pas tous les parents accepteraient de recueillir leur enfant après avoir fait ça.
Et de les aider?
Ouais. À s'en sortir.
Mais tu n'oublies pas que tu n'es pas tout seul. Hein.
Non.
Parce que comme tu le disais tout à l'heure, comme tu as confiance et que tu sens qu'ici tu fais un travail, ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui t'entourent pour que tu ailles mieux et que tu comprennes les choses.
Ouais.
Je crois en tout cas.
Ouais.
Et quand on a commencé ton récit de vie, Bijou, s'il y a des choses dont tu n'as plus envie de parler, tu me le dis. Hein.
Oui, non.
Tu me le diras pas. Mais tu as choisi cette date de la séparation de tes parents. C'est la première chose qui est venue. Parce que c'est encore quelque chose que tu es triste de ça maintenant.
C'est pas que c'est pas toi la séparation, mais c'est que quand mon père était chez moi, ben j'étais bien. Et quand il est parti, ben c'est tout qui s'est renversé et c'est là que tout a commencé.
Et tu as des souvenirs au moment où ton papa était encore à la maison? Parce que tu étais tout petit.
Oui, parce que mon père fait les dépannages, il faisait les dépannages et tout. Et j'allais avec lui et je passais que des moments avec lui.
Et ça, c'est des bons souvenirs pour toi?
Oui.
Est-ce que tu as d'autres bons souvenirs avec ton papa?
Oui, quand on allait au bord de l'eau ou quand il faisait des balançoires avec une grue. Enfin, on trouvait toujours un truc pour s'amuser.
Maintenant, je suis encore au milieu, tu disais, par rapport à justement ta maman et ton papa. Tu as l'impression d'être utilisé comme ça?
C'est surtout ma mère, parce qu'elle me prend, enfin, elle veut que j'aille vivre chez elle pour faire du mal à mon père, et enfin, elle m'utilise en fait.
Tu as l'impression qu'elle t'utilise?
Oui, c'est ce que je pense.
Et est-ce que tu as essayé de lui parler, lui dire que ça ne te plaisait pas d'être utilisé?
Non, normalement, avant-hier, je devais lui en parler, elle devait venir ici, mais elle n'est pas venue. Parce que j'étais prêt à lui dire, j'ai jamais voulu lui dire, j'ai toujours eu peur de lui dire. Et ici j'étais prêt à lui dire, mais elle n'est pas venue. Donc j'étais triste quand j'ai su ça, parce que j'aurais bien voulu lui dire pourquoi je ne veux plus vivre chez elle et tout ce que je ressens.
Et est-ce que tu voudrais le faire par la radio, par ton enregistrement?
Non, parce que c'est pas la même chose. Parce que je veux dire, j'aimerais mieux lui dire en face. Qu'elle soit devant moi. Parce que, on va dire, c'est un peu plus facile derrière un téléphone ou
derrière
à la radio.
Ouais. Parce que tu aurais besoin d'entendre sa réponse aussi.
Ouais.
Pour pouvoir réagir à ce qu'elle te dit.
Ouais.
Je suis désolé. Hein. Moi, je reprends ta préparation, Bijou.
Ouais.
Et tu m'avais dit aussi qu'il y avait des problèmes d'alcool à la maison, je crois.
Oui, avec moi. Oui, avant, je buvais. Il y a un an d'ici, je buvais tous les jours. Je commençais à boire parce que. Je voulais oublier tous les problèmes. À chaque fois que je buvais, bah, j'oubliais. Mais le lendemain, ça revenait, alors je rebuvais. Mais ici, ça me manque pas l'alcool.
Et ça commence à quel âge alors, Bijou?
Vers 14 ans.
Il n'y a pas très longtemps.
Non.
Et ça, c'est quand tu es à l'internat, je crois.
Ouais.
Et à quel moment tu vas à l'internat? Tu peux me rappeler?
Il y a 6 ans d'ici, donc j'avais... J'avais 9 ans.
Mais ce n'est pas tout de suite que tu commences à consommer. Hein.
Non. J'ai été à l'internat et 2-3 ans après, toujours dans le même internat, ben, il y avait des bouteilles de vin. Je buvais pour rigoler et ça.
On trouve des bouteilles de vin dans un internat?
Oui, parce qu'il y avait eu un truc de Noël et on était rentré dans un château et on avait pris une bouteille de vin. Puis j'ai été dans un internat pour adolescents, pour être autonome. Puis là, j'ai rencontré Alexandra. Et... ça se passait bien avec ça, puis avec tous les problèmes que j'avais chez moi, ben, j'ai commencé à boire. J'en avais marre, je voulais oublier tout ça.
Et quand tu vas à l'internat, Bijou, comment tu le vis, le fait d'être séparé et de papa et de maman?
Pour aller à l'internat?
Quand tu étais à l'internat, ouais. Comment tu vis le fait d'être tout seul, sans ta famille?
Ben, l'internat, je veux dire, ça me fait rien parce que j'y étais habitué. Au début, c'était très dur, je pleurais tous les jours, j'avais envie de retourner chez moi. Et comme je dis, je suis venu ici, mais ici, ça me fait rien. J'ai pas l'impression d'être puni, parce que l'internat, c'est un peu le même truc. J'ai eu pire que ça. Mais je veux dire, j'aimerais être auprès de ma famille, donc du côté de mon père.
Et ce que tu m'as dit aussi, c'est que t'avais une grande famille.
Oui.
Avec des cousins, des cousines, et que t'aimerais bien les connaître.
Oui.
C'est des gens que tu n'as pas vu assez ou que tu n'as jamais vu?
Il y a des gens que... Oui, c'est des gens que je n'ai pas vu assez, que j'ai peut-être vu 2-3 fois. Et je veux dire, j'avais appris à les connaître et puis j'ai plus de contact avec eux. Donc on va dire que je les connais presque plus parce que les gens échangent. Donc.
Et est-ce que tu as peur qu'ils te jugent? Parce que tout à l'heure, tu disais ton papa, lui, continue à t'aider, à te soutenir. Mais est-ce que le reste de la famille continue à te soutenir et à essayer de comprendre?
Bah, je veux dire, je sais pas parce que.
T'as pas eu l'occasion de les voir.
Ouais, j'ai pas de nouvelles d'eux, donc. Mais j'ai pas peur qu'ils me jugent parce que. Qu'ils me jugent, bah, c'est un peu normal. Après ce que j'ai fait, je comprends.
Et tu aimerais avoir une famille comme tout le monde?
Oui, bah, comme chez mon père, c'est normal, tout le monde se met à table quand il faut. Chez ma mère, bah, quand je vais là, bah, je suis pas obligé d'aller à table, je fais un peu ce que je veux. J'aimerais avoir des règles aussi. Parce que chez ma mère, j'ai pas de règles, je traîne dans les rues un peu n'importe quelle heure. Elle me dit que je peux pas, mais je sais bien que je peux dépasser.
Faire un peu ce que tu veux, quoi. Ouais.
Mais chez mon père, je sais bien que c'est des règles et on doit les respecter.
Donc tu en as, parce que tout à l'heure tu disais avoir une famille comme tout le monde, c'est aussi avoir des règles. Mais si t'es chez papa, lui, il te met des règles.
Oui, mais c'est ce que je veux, c'est pour ça que j'aimerais bien aller vivre chez lui, parce que j'ai jamais eu l'occasion de vivre chez lui. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien aller chez lui.
Et est-ce qu'il ne met, met pas trop de règles?
Non, il met des règles quand il faut, et il met des règles adaptées à l'enfant. Comment il réagit, et bien il lui met des règles en fonction de lui.
Et tu es prêt à les accepter?
Oui.
L'important quand j'étais petit, c'était mon père et ma grand-mère.
Oui. Ma grand-mère, parce qu'elle m'a toujours gâté, elle me gâtait tout le temps. Et je veux dire, je sais bien, quand j'étais tout petit, elle a voulu me plaindre, enfin, me mettre dans une famille d'accueil. Ou...
Parce qu'elle voulait t'éloigner de...
Oui, mais j'ai jamais compris parce que j'ai jamais pu en parler avec elle. Mais je veux dire, elle a toujours voulu me gâter, enfin, c'est ce que je crois en tout cas, pour se faire pardonner, mais... Moi, je lui en ai jamais voulu, en tout cas pour ça. Si elle a fait ça, c'est peut-être qu'elle avait de bonnes raisons. Mais je l'aime très fort et je lui dis un grand merci parce qu'elle a toujours été là pour m'écouter. Elle me téléphonait tout le temps, on restait des heures au téléphone. Je lui parlais de tout ce qui se passait et elle était toujours là pour m'écouter. Donc je la remercie.
Et elle continue à être présente?
Oui, oui, je lui téléphone encore ici, elle m'envoie du courrier, elle m'envoie un peu... Des bonbons, des cigarettes pour m'aider. Et en sortie, bah, elle viendra me chercher, tu sais.
Elle a quel âge? Plus ou moins?
Dans les 50 ans.
C'est une grand-mère jeune.
Ouais, ouais. Mais elle est fort malade. Elle a des problèmes aux poumons, elle ne sait plus bouger. Donc. Elle est un peu fort malade, elle commence à être malade. J'espère qu'elle va s'en sortir de ça, qu'elle guérisse bien.
Je vais te proposer ta première musique, Bijou. Et je te laisse l'annoncer.
Soprano.
Pourquoi tu as choisi Soprano?
Parce que c'est une musique douce et ça part trop... C'est pas... Enfin, j'aime bien le rap, mais j'aime bien des musiques douces comme ça.
Merci beaucoup de tes réponses. Hein.
De rien.
Vivre autant le faire avec le sourire, se dire que le meilleur est à venir, que le pire permet de construire ce vraiment à quoi on aspire, se dire pendant la chute qu'il y a toujours espoir de bien atterrir. La vie ça ne se respire qu'une seule fois, et le bonheur ça se vit sans aucune loi. Être libre, voilà mon véritable combat, tout faire pour que ma colombe intérieure ait enfin le cœur qui bat. Mais des fois je lâche, dans ma tête c'est le désordre, je trouve la force que pour faire le nœud de ma corde, comme ce fameux 3 décembre. Allah pardonne-moi d'avoir voulu mettre ma vie en cendres. Un suicide c'est lâche et égoïste, ça prend le cœur de ceux qui t'aiment vraiment et ça le trempe dans l'acide. T'as raison Kerry, pourquoi on fait du mal à ceux qu'on aime? Aujourd'hui c'est pour eux que je vis, c'est pour vous que je rappe. À bout de force au milieu de l'arène, au milieu des corps de ceux qui ont voulu abattre mes rêves. Toujours debout l'épée levée qu'ils viennent, un coup d'œil dans les tribunes, car c'est dans vos regards que je trouve de l'aide. Dans vos regards que je soigne mes plaies, celles qu'on retrouve dans chaque phase de mes couplets. Aujourd'hui je me bats pour mes véritables besoins, car celui qui se contente de peu ne manque de rien. Moi j'oublie rien de toutes ces galères ni d'où je viens. Moi j'oublie rien, mes potes savent que je reviens de loin. Je suis originaire d'un port d'Est esclave. J'ai la peau couleur pétrole et ça les collants le savent. Je suis comme rien et je suis fier de l'être. Porter ce sang est un honneur. Moi j'ai pas le droit à l'erreur, car les miens ont droit à l'or. Pour l'amour de cette femme qui porte mon alliance et mon gorge, je me dois d'être fort. Deviens ma camisole et me laisse plus dormir seul. Je porte la solitude comme un homme porte un linceul. Prendre de l'altitude m'a toujours donné le mal de l'air. Plus je monte, plus j'ai besoin d'une couette dans cette ambiance polaire. Ma colère envers les hommes est énorme. Comme tu vois, le monde est toujours aussi stone. Regarde, Chétan a beaucoup plus de stan. Et certains chiens des stades me rappellent l'amistad. À l'heure où les roses sont offertes aux morts plus qu'aux vivants. À l'heure où on est plus pris par le temps que par le vent. À l'heure où les médias font de la lessive avec notre cerveau. À l'heure où les bergers font de la laine sur notre dos. On se doit d'être fort. Se battre contre l'injustice, mais surtout se battre contre nos putains de caprices. Pour changer le monde, faut changer ses désirs. Puisqu'il faut vivre, faut qu'on résiste.
Vive à la révolution.
Vive
à la révolution.
Vive à la révolution. Avec le sourire
pour toutes nos générations,
c'est dire que le meilleur est à venir.
Pour toutes nos générations,
puisqu'il faut vivre, faut se battre, faut qu'on résiste.
Pour toutes nos générations,
pour un meilleur avenir. Puisqu'il faut vivre. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à ceux qui suivent Psychiatra. L-O-N Vincia, puisqu'il faut vivre, autant le faire avec le sourire, pour un meilleur avenir, Soprambaba,
Samarcande pour le carnet de route de Bidjo et son expression libre. Et là, on vient d'écouter ses sopranos, puisqu'il faut vivre, c'est le titre Bidjo. Et moi, je voulais te demander, je crois que je sais plus si je t'ai demandé tout au début, mais tu aimes soprano, tu m'as demandé soprano. Et qu'est-ce que tu entends dans sa musique ?
Ça, il s'exprime, il dit ce qu'il ressent. Il y a des chanteurs qui disent un peu n'importe quoi, qui disent. Des trucs qu'ils entendent ou quoi. Lui, il dit, il raconte vraiment ce qu'il ressent et ce qu'il a vécu et tout.
Et ça, c'est souvent ce que vous me dites quand vous écoutez du rap, hein. Enfin, la musique que beaucoup de jeunes écoutent. Ce qu'ils entendent, mais ils me disent ce qu'ils apprécient aussi, c'est que ça ressemble à leur vie.
Ouais, il y a parfois des trucs que ça ressemble, ouais. Ou ça me rappelle des trucs de maman, ou il y a des trucs qui disent que ça a un rapport, on va dire, avec moi.
Et pourquoi ça vous plaît, justement de... Est-ce que c'est... vous trouvez de la force, du courage à...
Oui, ça nous remonte le moral et ça nous met du courage. Ça dépend des chansons, parce que ça peut nous rappeler des mauvais souvenirs, des mauvais trucs de nos moments dans notre vie. Mais quand ça nous rappelle des bons moments dans notre vie, on se dit même qu'avec tous les trucs qu'on a vécu, moches, on trouve la force. Quoi.
Et à part la musique... Bidjo, dans quoi tu trouves justement ta force aussi ?
En roulant en moto. J'oublie un peu tout et je suis, on va dire, libre. Et mes esprits, je les laisse dehors.
Parce que c'est parfois un petit peu difficile de vivre avec son esprit, justement.
Ouais.
C'est vrai ?
Ouais.
Même quand on a 15-16 ans ?
Ouais, parce que j'ai vécu beaucoup de trucs. Enfin, c'est ce que tout le monde m'a dit, que pour un gars de mon âge, personne n'aurait vécu ça. et que je m'en sors encore bien pour tout ce que j'ai vécu. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Il y a à peu près tout le monde qui me dit ça.
Et toi, tu le penses?
Ouais.
Tu le ressens, ça?
Oui, je le vois aussi. Je vois que quand je parle, bah, tout ce que je dis, bah, je me dis, bah, y en a qui ne supporteraient pas ça et qui auraient déjà abandonné.
Tu veux dire dans ce que toi, tu as vécu?
Oui.
Et quand tu parles de ça, et moi je te dis dans certaines musiques qui vous ressemblent, j'ai noté deux petites phrases de soprano, et lorsqu'il dit « ma colère est énorme », est-ce que toi tu te sens en colère?
Oui, pour certains trucs que j'ai vécu, ouais. Je ressens vraiment de la colère, à peu près pour tout, et j'essaie d'enlever ma colère, parce qu'au moins j'ai que de la colère, et... À part la colère, je ne vois rien d'autre et j'essaye de peu oublier cette colère-là. J'apprends à travailler sur ça ici.
Mais j'oserais quelque chose ici, tu n'es pas en colère par exemple?
Non, parce que ici, on va dire, je me sens déjà un peu libre parce que je peux m'exprimer, je peux parler. Quand je fais des entretiens et que je parle avec l'éducateur, bah, je suis déjà libre parce que j'ai vaincu tout ce que j'ai en tête.
Et je peux essayer quelque chose? Et quand tu parles de la parole et de l'expression, que tu peux le faire? C'est quelque chose qui t'a manqué aussi, ça. Par exemple, en famille, est-ce que tu avais parfois... Tu pouvais dire, ça ne me plaît pas?
Non. Avec ma mère, j'avais toujours peur, parce que... Quoi, même quand j'essayais de parler avec calmement, bah, elle s'emballait tout de suite. Donc, j'ai jamais pu rien dire. Et quand j'étais à l'internat, bah, j'ai toujours eu peur de ça, donc j'ai jamais dit ce que je ressentais. Mais avant, j'étais, on va dire, un peu... J'étais caractériel. Et quand je voulais quelque chose et que je l'avais pas, ben, je pétais un plomb et je l'avais.
Mais c'est pas toi qui te disais je suis caractériel, c'est qu'on te le disait?
Oui, mais c'est ce que je voyais aussi. Que pour rien, pour les gros trucs, je m'emballe pas, mais pour rien, ben, je chute dans tout et je casse tout. Mais ce n'est plus le cas maintenant.
Et justement, par rapport à ce que tu disais avant, moi je t'avais posé la question... Quand tu m'avais parlé de ta famille quand tu étais plus jeune, et je t'avais demandé, mais tu as quand même appris des choses dans la famille, à l'internat. Et toi, ce que tu m'avais dit, c'était, ben, je n'ai rien appris. Tu te souviens de ça? En tout cas, dans la famille et dans les internats, tu as surtout appris dans la rue.
Pas trop dans la rue, mais j'ai appris tout. J'ai essayé d'apprendre tout seul. C'est, ouais, on va dire dans la rue, ben, je regardais et j'apprenais. J'essayais de faire parce que, on va dire, j'avais pas beaucoup de monde pour m'aider. Quand je faisais des choses bien, parce que j'aime bien la maçonnerie, enfin, j'aimais bien la mécanique, ou quand je faisais de la maçonnerie, bah, c'était pas bien fait, j'étais incapable à rien faire, j'étais un bon à rien pour mon beau-père. Mais, il y en avait quand même de l'extérieur qui voyaient que j'avais de bonnes capacités. Mais quand je rentrais chez ma mère, bah, ça me décourageait. Mais ici, bah, il y a tout le monde qui me le dit, il n'y a personne pour me décourager. Même ma mère, elle peut. Je sais bien que maintenant je n'écoute plus ce qu'elle dit. Mais c'était plus mon beau-père qui était pour me décourager.
Et qu'est-ce que tu ferais comme message aux autres jeunes qui pourraient vivre la même situation que toi? Comme si tu étais soprano qui vous donne de l'espoir parce qu'il vous donne des exemples. Quel message tu ferais toi aux autres jeunes pour leur donner un peu de peps ou de courage?
Je sais pas, ils ont... Quoi qu'il leur arrive dans leur vie, comme moi par exemple, j'ai vécu beaucoup de trucs. Et ce qui me donne le courage, c'est que je me dis, bah, par exemple, non, sur ma vie, c'est rien. Si en un an, j'arrive à me remettre bien, bah, les dernières années se passeront bien et j'aurai récupéré mon nom ici. Mais je veux dire, si on n'a pas le courage, bah, ce sera tout le temps moche. Il faut avoir la volonté de le faire.
Il faut la trouver, cette volonté.
Ouais.
Merci, hein, Bidjo.
De rien.
Et justement, je rebondis sur une phrase que j'ai pas dit tantôt, mais sur la musique de soprano, il dit puisqu'il faut vivre, il faut se battre pour un meilleur avenir.
Ouais, bah, par exemple, moi, faut que je me batte pour un meilleur avenir, parce que ma mère veut que je revive chez elle. Mais j'ai vécu beaucoup de choses moches, et c'est là que je faisais mes conneries. Donc, je dois me battre pour avoir un meilleur avenir. Donc, je dois me battre pour aller chez mon père. Et pour que là, ben, ça se passe bien. Donc je dois me battre contre ma mère. Et un jour ou l'autre, je devrais, on va dire, déclarer la guerre. Pour que... Et là, je me battrai contre elle, on va dire, pour que je n'aille plus là. Donc pour avoir un meilleur avenir chez mon père.
Parce que ce que je vois dans ta préparation aussi, hein, Bijo, c'est que tu m'avais dit, tu n'es pas obligé d'en parler. Hein. Tu parlais de violence, tu vois, de violence ouais. passée. Et tu avais quand même vécu pas mal de violence de la part de...
Mon beau-père.
De ton beau-père, oui.
Ouais. Moi, jusqu'ici, on m'a toujours puni pour rien. Et par exemple, depuis l'âge de 8 ans, je fume la cigarette. Et quand je fumais en cachette et que mon beau-père ne voulait pas, bah, il me punissait, mais pas la punition qu'il devrait me donner. Il me frappait ou il me mettait en dessous de l'eau froide ou il me renfermait dans une petite cabane. Et, donc je veux dire, c'est à peu près, j'ai vécu à peu près que de la violence. Je voyais que ça.
Et je ne sais pas si tu te souviens un moment, tu m'avais dit que tu essayais d'oublier.
Ouais.
Mais comment on peut faire pour oublier ça?
Je sais pas parce que je n'y arrive pas. J'aimerais bien oublier, mais j'arrive pas. Et moi, je pense que pour oublier, il faut en parler. Parce que j'ai toujours eu ça en moi et j'en ai jamais parlé. J'ai toujours voulu oublier, par exemple, comme en buvant de l'alcool. J'essayais d'oublier, mais j'en parlais quand même pas. Et si j'en parle, ben, j'oublie, on va dire, les mauvaises choses. Ils sont toujours dans ma tête, mais j'y pense moins. Ils reviennent moins vite. Donc, il faut en parler, il faut dire ce qu'on ressent, et là, ben, ça, on va dire, on oublie un peu.
Si je peux me permettre, tout à l'heure, avec la musique de soprano, je la prends toujours comme exemple, hein, mais aussi en parlant, ça peut peut-être. Tu peux peut-être te rendre compte que d'autres personnes vivent ou ont vécu des choses. Pas les mêmes que les tiennes, mais d'autres difficultés.
Oh ouais.
Et ces gens-là, ben, ils sont passés à autre chose. Et tu peux avoir comme exemple des gens qui ont réussi à devenir des adultes malgré la tristesse qu'ils ont pu vivre quand ils étaient petits.
Ouais, ouais.
Et c'est, je crois, comme ça que tu vas le découvrir, c'est en parlant avec certaines personnes.
Ouais. Ouais, parce que quand je parle, il y en a qui me donnent des exemples. Ben voilà, moi j'ai eu ça et il me dit c'est pas pour autant que je vis mal, je suis bien, j'ai une femme et ça, donc.
Alors, le deuxième sujet, c'était Alexandra,
oui.
Ta copine.
Oui.
Quand est-ce que tu la rencontres?
Je l'ai rencontrée, je l'avais déjà vue à l'internat. Là, je veux dire, on n'était pas dans le même groupe, donc on se voyait comme ça. J'étais pas trop attiré vers elle. Puis elle est venue à l'internat où je suis maintenant. Enfin, où j'étais avant de venir ici. Et là,
Mais pourquoi tu changes d'internat, pardon?
Parce que j'étais, on va dire, un adolescent et c'était pour être autonome. Pour apprendre, par exemple, à faire la lessive et tout ça. C'était un internat de groupe et on avait plus de liberté. C'était à nous mettre des limites. Et là, j'ai été attiré vers elle. Et elle voulait pas sortir avec moi au début parce que elle croyait que je disais ça. Et puis... Après, on est quand même sortis ensemble et on a vécu beaucoup de moments très chouettes, de moments où je repose encore. Et dans cet internat-là, on pouvait pas sortir avec des membres de l'internat. Et pour finir, ils ont accepté et elle pouvait venir chez moi. Et elle venait et on passait de la journée ensemble et tout ça. On trouvait toujours un truc à faire, mais elle m'a... Avant de, hop, 2-3 semaines avant de venir ici, on s'était séparés. Enfin, elle m'avait quitté parce que j'arrêtais pas de faire des conneries. Je lui ai toujours promis que j'allais arrêter de boire, arrêter de faire toutes ces conneries. Et elle a toujours essayé de me croire, mais je ne le faisais jamais. J'ai toujours dit que je voulais changer que pour elle. Et elle m'a dit, il faut pas que tu changes pour moi, il faut que tu changes pour toi. Parce que si tu veux changer pour moi, ça n'ira pas. Et effectivement, ici je remarque que... Ici, je veux changer pour moi. Et effectivement, ça marche.
Eh bien, justement, si tu veux bien, Bijo, tu avais apporté deux petits textes. Et le premier, c'était pour ta copine. Et je vais te demander si tu es prêt.
Alexandra, je t'aime, je t'adore. Impossible de t'exprimer les sentiments que j'éprouve envers toi. Je te dirai je t'aime, jusqu'à ce que je meure. Je te quitte, je suis fou de toi. Je suis perdu sans toi. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu es toute ma vie, j'ai passé des moments inoubliables avec toi. je me rends compte que j'ai fait le foireux à faire toutes ces conneries. Oui, si je n'aurais pas fait toutes ces conneries, je serais avec toi, en train de passer des moments inoubliables. De te voir, toi, ton si beau visage, tes lèvres si belles, si douces, tes yeux si beaux, si brillants, tes joues si molles, si douces, ton corps si brillant, ton corps qui m'éblouit. Je serais avec toi dans mon lit, corps à corps au chaud, en train de te parler à voix basse et de te dire je t'aime. Tu me sourirais et tu me dirais moi aussi je t'aime. Je me rappelle quand tu voulais que je boive qu'avec toi, pour pas que je ne te trompe, pour pas que je fasse de conneries. Je te remercie, je t'aime de tout mon cœur. Je veux que quand je sors d'ici, on rattrape tout le temps perdu. Que je te montre ma vraie personnalité. Le gars qui ne fait pas de conneries. Le gars que tu as toujours recherché en moi. Je tiens à m'excuser. Je te promettais tout le temps que j'allais arrêter de boire. Que j'allais arrêter de faire mes conneries. Tu as toujours dit, il ne faut pas que tu changes pour moi. Il faut que tu changes pour toi. Et l'autre fois, je t'ai dit, tu avais raison, enfin, je change de plus en plus, j'espère que tu le remarques. Sache que je ne reviens pas à la connerie que j'ai faite. Je pleure pour les victimes, je m'en veux. Je ne veux plus faire le caïd en me vantant de mes conneries. Je veux les accepter comme je les ressens. Je t'aime, je ne t'oublierai jamais, Alexandra. Je veux te présenter à mon père quand je sors, je t'aime. Tu es tout pour moi, Alexandra, Alexandra. Le quartier, les potes, la famille, les frères et sœurs. Je ne t'oublierai jamais. Je serai prêt à mourir pour toi. Même tout l'or du monde ne ferait pas le poids. Tu es mieux qu'un rayon de soleil, une étoile filante. Tu es dans mon cœur.
Eh bien, merci beaucoup. Bijou, c'est un très beau texte que tu as écrit là.
Merci.
Et est-ce que tu as eu des nouvelles de ton ami depuis ?
Non, enfin, je suis sorti à ma deuxième sortie. Et j'ai demandé à ma mère pour qu'elle demande à ma copine de venir, enfin, Alexandra. Et elle a accepté, elle était venue. Je suis resté toute la journée avec. Et je lui ai dit tout ce que je ressentais, que je voulais, cette fois-ci, c'était la bonne, que je voulais vraiment changer.
De l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ça sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aient bien. Éviter les coups de surin, afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout, jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Jamais demandé à t'avoir, c'est avec ces formules trop saoulées. Enfin, faut croire que mon père a contribué à me lier avec la régie. L'illusion, mais trouve le mieux, j'y ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge pour entrevoir. C'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les dents assez longues pour croire que la vie profitait de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'ici, avec mon père, était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui trancha les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse, mais laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. On veut pas qu'il glisse. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? Que t'as pas vraiment ça pu dehors. Mais comment ça sent la mort? Quand tu respires ça mec t'es comme mort. Tu fais
finis borné à force de tourner en rond. Ton cerveau te fait des faux, fait des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres, tu joues de mieux en mieux ton rôle. Ton rôle de Kaira, juste pour le pas. Quand te disent voilà, tu fais plus partie de la mifa d'en bas. C'est dingue, mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs, la survie est un combat. Base de Kuba, de coups, de combat, d'esquives, je te perds. Ce putain de stromba, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non, laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
Voilà dans le petit studio mobile de Samarcande, toujours en compagnie de Bijou. Et là, on vient d'écouter, c'était NTM à l'aube de l'an 2000. 2000. Et il dit souvent, c'est « ne laisse pas traîner ton fils ».
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, comme ma mère, elle me laissait traîner. Et quand il dit « ne laisse pas traîner ton fils avant qu'il glisse », ça veut dire avant qu'il aille faire des conneries et qu'il traîne avec des grands et qu'il fasse la même chose. Bah moi c'est un peu pareil, donc c'est un peu, on va dire, pour ma mère, parce que ne laisse pas traîner ton fils, parce qu'elle me laissait traîner, et pour pas qu'il glisse, bah, parce que il fallait pas que je glisse, mais malheureusement j'ai glissé, et voilà ce que ça m'a emmené ici.
Et glisser, ce serait aussi apprendre dans la rue, avec des influences et des potes. C'est un peu ce qui s'est passé pour toi.
Ouais.
Mais moi, j'ai envie de revenir sur Alexandra.
Ouais.
Parce qu'à un moment, tu m'avais dit... tu m'as parlé de vos différences. Et je voudrais que tu m'expliques. C'est quoi avoir... Elle, tu m'avais dit, elle a un caractère dur. Jamais comme elle était. Qu'est-ce que ça veut dire pour une jeune de 16 ans, je crois, hein, ouais. Une jeune fille de 16 ans, d'avoir un caractère dur. Est-ce que tu peux m'expliquer?
C'est un peu dur, parce que son caractère est un peu spécial. Mais... on va dire, elle râle vite pour... on va dire, si elle n'a pas ce qu'elle veut, bah, elle râle vite. Et quand elle râle, bah, elle râle. Et c'est un peu dur de la remettre en état. Et...
de la remettre en état?
Bah, je veux dire, pour ne plus qu'elle râle.
Et pour que tu aies l'impression qu'elle continue à t'aimer aussi.
Ouais, enfin, quand elle râlait, j'essaie de parler avec et... on parlait ensemble et je lui demandais qu'est-ce qu'elle avait.
Et le contraire, est-ce que toi parfois tu pouvais râler et être...
Oui, quand je râlais, bah, par exemple à l'internat, bah, pendant la nuit j'allais dans sa chambre. Et bah, des fois je râlais et bah, on parlait ensemble. Et elle me dit, je serai toujours là pour t'écouter. Et on s'envoyait des messages. Et quand je lui répondais pas, elle voyait que je râlais ou quoi. Alors, elle me disait, qu'est-ce que t'as ? Et on commençait à parler. Elle essayait de me soutenir, on va dire.
Et tu m'avais dit, je ne savais pas ce que c'était vraiment l'amour avant d'avoir rencontré...
Ouais, moi, je sortais juste avec des filles pour sortir avec des filles. Et celle-là, bah, je sais pas si c'est vraiment de l'amour, mais je suis sorti avec et j'ai jamais pu me passer d'elle. J'ai toujours voulu être trop près d'elle. J'ai voulu l'avoir que pour moi. C'est...
comme un objet.
Oui, comme un objet. Elle était à moi et à personne d'autre. Il y en a qui essaient de me faire comprendre que ce n'était pas qu'à moi, mais j'ai jamais voulu comprendre. Et mais je l'aime vraiment. Comme je dis dans la chanson, je ne saurais jamais t'exprimer les sentiments que j'éprouve envers toi. Ça, je lui ai déjà dit en face. Parce que je l'aime tellement que je ne saurais même pas lui dire au quel point je l'aime. C'est vraiment fort. C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. Aussi bien auprès de mon père que de ma mère, que de mes soeurs et frères. C'est vraiment un truc très gros, quoi.
Mais c'est un amour différent aussi.
Oui. Mais je veux dire, même l'amour l'autre différent, bah, j'ai jamais ressenti ça. Juste avec mon père, mais c'est pas le même amour, par exemple. Mais je veux dire, je suis déjà sorti avec des filles, j'ai déjà, on va dire, un peu aimé des filles. Mais aimer comme ça, jamais aimé.
Et on passait de bons moments ensemble. Et là, tu m'avais expliqué ce que vous faisiez parfois, où vous partiez et où vous allez nager.
On nageait dans des lacs bleus, où on allait faire des barbecues, enfin, où on allait se balader au vélo. On trouvait toujours des trucs à faire. Mais on passait, à chaque fois qu'on faisait un truc, on passait des bons moments. On a déjà bu des verres ensemble et toujours dans le sourire, sans que je me prenne la tête avec un gars ou quoi. Quand, une fois, j'avais bu avec. Et avant, on sautait dans l'eau, des ponts et tout ça. Mais moi, j'ai jamais voulu faire. J'étais un peu au couillon pour ça.
Sauter des ponts?
Des ponts. Oui, c'est quoi les ponts?
Mais oui, au-dessus de la Meuse.
Oui, oui, au-dessus de la Meuse. Et j'avais...
C'est pas interdit, ça?
Si, mais... J'avais bu et j'ai été au-dessus et j'ai sauté dans la Meuse.
Et tu prenais des risques à ce moment-là?
Oui, j'ai failli étouffer ce jour-là. Mais parce que j'avais bu et j'avais plus à très bien nager. Et le lendemain, bah, je l'ai refait et je l'ai fait d'un plus haut pont.
Et tu as failli...
Non, de plus haut pont, c'était... Ça a une belle sensation.
T'es un casse-cou, comme on dit?
Moi aussi. Oui, j'aimais bien aussi avec mon meilleur ami. Et je lui remets le bonjour, Jason. Avec lui, je passais. C'était souvent des trucs de casse-cou. On faisait Jackass, par exemple. On prenait des vélos. Et on descendait des descentes et on se prenait des arbres. Et on rigolait. Des fois, on revenait à moitié cassé, on va dire.
T'as une petite cicatrice là, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir.
Non, ça. Enfin, si je voulais faire des wheels au vélo avec mon père, il m'avait acheté un vélo. Je suis tombé, qu'on n'a plus de fenêtre. Je me suis ouvert.
Alors, à 14 ans, on est toujours dans ton récit de vie. Hein. Mmh. À 14 ans, tu me disais, c'est à ce moment-là que tu commences à boire beaucoup. Hein, tu commences à boire à l'internat beaucoup. Ouais. Et ce que tu m'as dit aussi, c'est que parfois ta maman, maman m'achète de l'alcool et je n'ai jamais aimé qu'elle fasse ça. Tu te souviens?
Oui. En fait, une fois, il y avait eu mon anniversaire. J'ai voulu sortir en boîte avec elle, une petite boîte pour... Enfin, pas pour adulte, mais une petite boîte. Et elle voulait pas et j'étais avec mon cousin et je lui ai demandé pour qu'elle m'achète de l'alcool. Sur le moment même, ça me faisait plaisir parce que je buvais, j'étais sous et de ça. Mais je veux dire, pour une mère, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de faire ça. Je veux dire, je lui disais, tu veux bien m'acheter une bouteille d'alcool, prends-toi une, eh ben, elle allait me l'acheter. Ou si je pouvais pas rouler en mobylette, par exemple sur la route, mais pour aller lui chercher l'alcool, je pouvais. Effectivement, ben, je m'en prenais pour moi, je buvais. Et j'ai déjà bu dans ma chambre avec ma copine et ça, et elle a jamais rien dit. Je veux dire, boire un verre, c'est pas encore grave, et encore, parce que je suis encore jeune. Mais je veux dire, boire comme je buvais, être sous, jusqu'à ne plus savoir boire, ben, c'est pas normal.
Et tu as autour de toi des adultes qui sont, qui boivent beaucoup aussi?
Mon père, avant. Il buvait beaucoup, il buvait tous les week-ends son verre, mais il buvait vraiment, mais il nous a jamais fait de mal, mais je veux dire, j'ai toujours voulu ressembler à mon père. Mon père est blond, je me souhaitais les cheveux blonds comme lui. À 8 ans, il fumait, à 8 ans, j'ai voulu fumer comme lui, il roulait en voiture, j'ai voulu rouler en voiture, et il buvait, et je voulais boire. J'ai toujours voulu lui ressembler.
Je vais te proposer ton texte justement sur papa. Est-ce que tu es d'accord?
Oui. Papa, cette chanson est pour toi. Je t'aime très fort. Papa. Papa, tu n'as jamais été là quand j'avais besoin de toi. Papa, mais ce n'est pas de ta faute. Quand j'étais petit, je voulais toujours être avec toi, papa. J'ai toujours voulu être comme toi. Te ressembler, je me suis taillé les cheveux en blond comme toi, papa. Je buvais tous les jours un peu comme toi, papa. Mais toujours au pire, papa. Tu as fait des conneries, et moi aussi, papa. Mais la dernière, tu n'as pas fait ça, papa. Et sache que je pleure pour les personnes, je suis désolé, pardonne-moi. Papa, mais je suis content, je peux enfin dire ce que je ressens et avoir la possibilité de vivre chez toi. Papa, je veux vivre chez toi. Je veux être dans ta famille, Je veux pouvoir parler comme je parle ici avec toi. Je m'aide dans tes bras et te faire un grand câlin. Je veux avoir un but dans ma vie et faire mes études. Et droit et ne plus faire de conneries et pouvoir rattraper le temps perdu. Avec ma copine Alexandra, pouvoir te la présenter. Je tiens à ce que tu saches, elle est très importante pour moi, papa. Sandra, ma belle-mère, je t'aime, j'aimais bien quand on parlait avant d'aller au lit, j'aurais dû t'écouter, Sandra. Papa, je suis fier de toi, que tu ne déconnes plus, que tu ne sois bien avec Sandra. J'aime de te voir heureux, souriant, sache que tu es très important pour moi. Quand j'ai une moto dans les mains, je ne sais pas me contrôler, je fais le sage comme toi, papa. Je suis fier d'être ton fils, papa. Dès l'âge de 8 ans, je savais déjà rouler en voiture. Dès l'âge de 8 ans, je fumais comme toi, papa. Je ne sais pas rester en place comme toi, papa. Je veux que tu sois fier de moi, que tu sois fier d'être mon père. Je te demande pardon pour avoir fait toutes ces conneries. Je veux être bien chez toi, papa. Je t'aime.
Merci beaucoup, Bijou. Merci beaucoup pour ce texte. Ben, il est comme tout à l'heure. Tu vois, tu parlais d'amour tout à l'heure, différent pour Alexandra, mais de l'amour pour son père, on peut en avoir aussi.
Ouais, ouais.
Et dans ce que tu dis là, ben, c'est ce qui ressort, quoi. En tout cas, moi, j'ai l'impression.
Ouais, ouais. J'aime beaucoup mon père.
Bijou.
Ouais.
Tout à l'heure, quand tu parlais d'Alexandra, un moment, elle te quitte quand même.
Ouais, ouais.
Et qu'est-ce que tu serais prêt à faire maintenant ?
Bah, à lui montrer que je suis plus le même et que j'ai changé. Je veux dire, ça ne se fera pas direct, ce sera pas en un jour que je changerai. Enfin, que je vais lui montrer que j'ai changé. Mais c'est en m'observant qu'elle le verra. Par exemple, en faisant des activités avec elle, on va dire je ferais peut-être moins le con qu'avant. Je buvrais peut-être pas en faisant une activité. Ou j'irais moins vite avec des copains. Enfin, elle le verra et j'essaierai de lui montrer.
Et tout à l'heure, quand on parlait de ton récit de vie, au moment où elle te dit c'est pour toi que tu dois changer, pas pour elle.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens qu'il y avait une histoire avec une moto. Parce que tu disais aussi avoir beaucoup de plaisir à rouler à moto. Ouais. Je crois qu'il y a pas mal de choses autour d'une moto. C'est ça, hein ?
Avec elle ?
Ouais, aussi avec elle.
Ouais. J'avais volé une moto et je lui ai appris à rouler en moto. Mais on va dire, d'un côté, ça lui plaisait, parce qu'elle roulait en moto. Je n'en suis même pas sûr qu'elle savait que je l'avais volé. Je l'avais volé à un gars de la cour. Je m'excuse auprès du gars. Et je lui avais appris à rouler. Et puis j'avais été avec un gars de là-bas. Et pendant toute une nuit, j'ai roulé avec. Et elle râlait parce que je l'avais pas appris. Et la journée, j'ai voulu aller laver la moto. Et je me suis fait attraper par la police. Et j'ai inventé une histoire. J'avais dit que je l'avais trouvé. Je suis rentré à l'internat. Ils ont dit on a reçu un coup de téléphone de sa maman. Qui avait dit qu'il y avait une moto de un copain à lui qui avait disparu. Et j'ai dû aller au commissariat pour dire vraiment la vraie histoire. Quand je suis rentré, bah, elle râlait parce que j'avais fait ça. Et que j'étais revenu avec la police, que je ne voulais vraiment pas changer.
Et après, qu'est-ce qui se passe ?
Après, bah, je buvais toujours et je suis sorti une fois et j'avais oublié mon argent, je voulais aller boire avec un gars de visée et j'ai volé une voiture. J'ai pris la voiture, je suis parti, j'ai été demandé au gars pour voir s'il avait pas 10 euros pour mettre de l'essence. Puis il m'a dit, je dis tu peux venir avec, il est venu avec. J'ai roulé pendant toute la nuit, j'ai essayé de klaxonner pour prendre Alexandra. Et après j'ai ramené la voiture, je l'ai remis à sa place et elle a repris ça. D'un côté, elle aurait voulu être avec moi, mais d'un côté, non. Parce que j'avais volé la voiture.
Et après, tu continues à consommer. Tu es à l'internat encore à ce moment-là.
Ouais. C'est juste avec la voiture, après ça, j'avais été chez mon père. Et après, on est allé à l'internat. Et l'internat avait trouvé une manne avec plein de bouteilles d'alcool. Et moi, je voulais pas rester à l'internat. Je voulais retourner chez ma mère parce que j'en avais marre d'être à l'internat. Mais en même temps, je voulais pas retourner chez ma mère. C'est en espoir que j'aille chez mon père. Et j'ai été chez mon père et là j'avais plus consommé. Et puis j'avais envoyé un message à ma mère pour vivre chez mon père. Et là elle m'a répondu, elle m'a dit dommage, c'est pas toi qui as écrit le message. Parce que j'avais vraiment dit tout ce que je ressentais, elle m'avait pas cru. Puis elle a commencé à harceler mon père et ma belle-mère. J'ai dit pardon. Et je voulais pas retourner chez elle, je pleurais de ça et cette nuit-là, j'ai commis le fait.
Et à ce moment-là,
j'ai été dans un centre fermé. Et c'était deux mois maximum. Et je suis resté un mois et puis je suis venu ici, dans ce centre, à l'IPPJ.
J'ai envie de bien recommencer, de ne plus être un danger pour la société, parce que je ne me reconnais pas dans ce que j'ai fait là.
Ouais, j'ai fait un truc très moche. Et j'arrive déjà pas à croire que c'est moi. Et je pleure pour cette victime-là. J'ai vraiment du mal à croire que c'est moi qui ai fait ça. Et c'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux, qui m'a fait voir que en faisant ça, j'étais un danger pour la société. Comme voler une moto. Parce que pour moi, voler une moto, c'était pas grave. Je roulais, voilà. Je me rends compte que toutes les conneries que j'ai fait, c'était un danger pour la société. Et je veux plus être ce danger-là. Je veux justement aider la société, aider les gens.
Et comment tu peux les aider?
En faisant, par exemple, en maçonnerie, en faisant des maisons. Ça aide la personne. En faisant tous des petits trucs comme ça. Ou travailler dans un home ou quoi. Faire des trucs pour aider la personne.
Quelle image tu as de toi?
Une laide image. Un gars qui a toujours fait des conneries. Mais un gars qui peut être très chouette, que quand il veut, peut faire de bons trucs et je peux montrer de très bons fonds. Et ça, on me l'a déjà fait remarquer, que quand je veux, je peux vraiment être bien, un gars chouette. Et je crois que ce gars chouette-là, c'est ma vraie personnalité. C'est pas le gars qui fait des conneries. Parce que moi, au début, je voulais faire des conneries parce que je voyais les gros faire ça. Et au début, on se dit, c'est bien de faire des conneries. Mais on fait des conneries, puis on se retrouve ici. Et on se dit, j'aurais jamais dû faire ça. Et il y en a encore après, au sort d'IPPJ, ou le décisement, ils recommencent. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Mais moi, en tout cas, j'ai compris.
Tu avais rajouté, c'est si on me voit comme quelqu'un de bien, je suis bien. Et si on me voit comme quelqu'un de mal, je suis mal.
Ouais, je me voyais comme ça. Je me voyais à travers les autres. Si pour les autres j'étais pas bien habillé, je trouvais un truc pour bien m'habiller pour eux. Et si on voyait que j'étais un gars qui faisait des conneries, qui était fou et de ça, j'aimais bien ce truc-là. Et alors je faisais ça. Et quand on me voyait pour un gars bien, j'essayais de faire des choses chouettes. Et maintenant j'ai envie de faire des choses pour moi, pour mes yeux à moi.
Et j'ai noté ici, que pense ton papa de tes qualités?
Il trouve que j'ai de très bonnes qualités, parce que mon père travaille beaucoup. Il aime bien un peu chipoter, toujours bricoler et tout ça. Et ça faisait 5-6 ans qu'il m'avait plus vu, j'avais plus travaillé avec lui. Quand je travaille avec lui, il dit que j'ai de bonnes qualités, parce que je ne sais pas rester en place, j'aime bien tout le temps travailler. Et il dit que c'est bien.
Tu m'avais dit aussi, au fond de moi, je peux être très vite mal.
Oui, ça c'est... Pour des petits trucs, je peux vite être mal, mais quand c'est des gros trucs, je suis pas mal. Je me rends compte que j'ai toujours fait le petit caïd, mais ici je me rends compte que je peux très vite être mal. Pour des trucs qui me blessent vraiment.
J'ai un petit cœur, c'est ce que tu avais dit.
Oui, par exemple, pour ma copine, j'étais vite triste. Et quand il se passait quelque chose, bah, j'étais très vite mal et je pleurais, donc je veux dire, j'avais un petit cœur. J'arrivais pas à supporter, c'était trop triste pour moi.
Et est-ce que c'est pas, allez, comme tous les adolescents, comme beaucoup d'adolescents, ce que tu décris là?
Oui, enfin, je sais pas. Oui. Tout ça, oui, mais il y a juste tout ce que j'ai vécu qui n'est pas comme les autres adolescents. Comme un adolescent normal, donc un gars qui vit normal. Mais ce truc-là, ça peut se passer à des autres adolescents.
Merci, Binjo, pour ta participation. On arrive tout doucement à la fin de ton travail, ton émission. Ouais. Comme je te l'avais dit, tu avais choisi 4 phrases d'autres jeunes, hein, tu te souviens? Ouais. Et je vais te demander de les lire et de réagir, si tu veux bien. Tu es toujours d'accord?
Ouais. La première chose, je ferai en sortant du PPJ, est de mettre mon cartable sur le dos. Aller à l'école et bien continuer. Mes parents, j'ai l'impression que je suis réservé rien qu'à eux. Donc à mon père, bah, je suis, on va dire, réservé à lui. On va dire, il pense un peu à moi, tu sais. On voit dans le présent et pas dans le futur. On voit comme aujourd'hui, bah, là je suis en train de parler et de m'exprimer. Mais je ne saurais pas dire ce qui se passe dans le futur. J'ai besoin de bien grandir. Je ne sais pas grandir tout seul. J'ai besoin de mes parents. Bah, de mes parents, c'est surtout mon père, parce que ma mère ne m'a pas trop, on va dire, aidé. Mais mon père pourrait m'aider à grandir et à être un gars avec plus de maturité.
Merci beaucoup pour ta participation, Bijou. Et je vais te proposer, comme à tous les jeunes, c'est de terminer par un message de la fin. À qui tu veux?
À mon père. Je pense souvent à lui et je le remercie. Parce que tu m'as toujours dit que tu m'abandonnerais jamais. Et je suis très content. Et ma belle-mère qui aide mon père et en faisant les démarches pour m'avoir chez lui. Un gros bisou à toute la famille.
Merci. Et je suis heureux de t'avoir rencontré, Bijo.
Moi aussi.
Et j'espère que tu es content du travail qu'on a réalisé aujourd'hui.
Oui, je suis très content.
Et je vais te souhaiter d'être le plus heureux possible et de devenir l'adulte le plus heureux possible demain.
Oui.
Et on va se quitter avec Brasco, tu me l'as demandé aussi.
Oui, Vagabond.
Vagabond. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Bijo.
Ma mère se tue à me dire « Boss, fais la thune ». Avant que je deal, que je fasse couler le sang comme Nosferatu. Elle ose faire la dure, elle sait où le bloc nous mène. On finit par être tôlard, sous terre ou comme une loque humaine. Venu en France pour les études, j'ai fait semblant. On me dit toujours que j'assure pas pour la descendance. J'ai atterri chez une tante qui me cassait les couilles. À chercher une plante, j'ai failli acheter une tente. C'était à base de tu faut rien. Trouve du travail, bouge ton cul tous les matins. Mets une veste et une cravate et puis ton rap. Pète les oreilles ici, y'a des lois, tu traînes. Ça fait des mois, non, je veux plus de ça chez moi. Squatter le hall, tu trouves ça attirant? Si t'aimes tant la rue, je mets ton matelas devant le bâtiment. C'était ses phrases préférées, je pensais que j'étais à l'armée. Je suis parti sans regret, sans savoir où aller. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Je suis pas prêt de me mettre à table, j'ai toujours prouvé aux proches que je suis un mec à part et pas un mec capable. Loin de Guada et de mes parents qui s'inquiétaient, je les rassurais en vrai, j'étais dans un sale pétrin. C'est là que les galères ont commencé, je me suis accroché. Chaque soir je me demandais où je vais pouvoir me coucher, où je vais pouvoir me toucher. J'avais plus beaucoup d'amis, c'était chaud quand mes habits sentaient les égouts de Paris. Fatigué à force de faire le va-et-vient chez les potes dans les trains. Mais le pire c'est quand t'as faim. Trop de fierté pour fouiller les poubelles qui traînent. Qu'est-ce que je ferais pour des frites et un Mac Chicken? J'attire une meuf qu'elle m'invite chez elle ou à l'hôtel. Bien sûr si elle paye, sinon c'est pas la peine. Je suis pas un top modèle, mais je sais les charmer. Tout ça pour pas dormir dans des cages d'escalier. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. J'ai côtoyé celui qui mendiait avec sa guitare, celui qui faisait le pickpocket sans se faire tricard, celui qui croyait que le RER était son plumard. Je voyais parler tout seul avec sa bouteille de pinard. Les contrôleurs troublaient mon sommeil, me chauffaient la tête. Je prenais les PV pour me torcher avec. Je connais le métro, ces coins sales, ces clodos, ces touristes qui te saoulent avec leurs appareils photos. En hiver, j'étais obligé de squatter les stations pour me tenir au chaud jusqu'à la prochaine saison. Ma maison...